Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.
Je m'appelle Cheikh Oumar, je suis né en Côte d'Ivoire et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, je suis allé au Mali où j'ai vécu à peu près 3 ans et juste après mon bac, je suis venu en France.
Eh bien, je m'appelle Soumia, j'ai 27 ans. J'habite en Île-de-France, j'ai vécu à Toulouse quelques années et puis je suis originaire de la région PACA. Mais aussi et surtout originaire, mes parents sont originaires du Maroc.
Dire depuis quand je suis musulman de naissance, parce que je suis né musulman avec un prénom musulman, d'une famille musulmane de tradition et d'une famille pratiquante aussi. Par contre, niveau pratique même de la religion, j'ai commencé sérieusement, plus sérieusement ici en France, c'est-à-dire à faire régulièrement les 5 prières. Sinon, je le faisais, mais c'était pas régulier.
Moi, je viens d'une famille qui est plutôt conservatrice. Et qui est croyante et pratiquante. Donc ça a beaucoup joué sur ma construction, ça c'est sûr. Mais quand j'étais plus jeune, disons que mes parents nous ont laissé assez libres quand même, malgré tout. Puis c'est vrai que c'est à l'adolescence, peut-être au milieu du collège, que j'ai commencé à m'intéresser à la religion, un de mes parents. Là, c'est vraiment devenu quelque chose qui me devenait intime. C'était pas un truc familial, où là, je me suis vraiment posé la question sur l'existence de Dieu. Est-ce que je croyais, moi, en Dieu réellement ou pas ? Et là, mon cheminement a commencé comme ça.
C'est quelque chose qui a été progressif, en fait, tout simplement. J'ai ressenti le besoin de me cadrer, parce que j'avais l'impression de chercher un peu ma voie, de chercher quelque chose à quoi je pouvais bien m'accrocher. C'était difficile à expliquer parce que ça se ressent à l'intérieur. J'avais besoin de quelque chose et je le recherchais autrement. Et jusqu'à ce que je commence à m'intéresser de plus en plus à l'islam. Et bon, quand on a un peu grandi aussi dans une famille qui pratique, bon, ça influence d'une certaine manière. Voilà, donc parmi toutes les questions que je me pose, je me dis à un moment donné, bon, il faut essayer ce côté-là. Et quand j'ai essayé, je me suis rendu juste compte que c'était de ça que j'avais besoin. Pratiquer la religion, faire mes prières, jeûner. Et j'avais besoin de cette stabilité spirituelle-là. Et j'avais des questions que je me posais et que j'ai trouvées dans l'islam. J'avais des comportements que je voulais avoir et j'ai trouvé vraiment, vraiment ma voie dans l'islam, tout simplement.
Voilà, au fur et à mesure, oui, j'ai commencé à vouloir pratiquer à ce moment-là. Et puis à rendre visible ma pratique un petit peu plus tard, vers la fin de du lycée. Et là... Patatras.
D'une part, bon, au début c'était un peu la découverte aussi parce que c'est un changement de vie, c'est un peu un changement de fréquentation, parce que même si on ne se sépare pas de certaines personnes, et ce sont elles qui se séparent parce que les visions deviennent différentes, c'est aussi un peu de peur, de l'inconnu, parce que c'est le spirituel, on ne voit pas, on croit d'abord. On apprend au fur et à mesure, on expérimente et après on est convaincu à l'intérieur.
Ouais, bah comme j'ai commencé à porter le foulard à ce moment-là de ma vie, ma vie a changé du tout au tout. Après le fait que je sois maghrébine déjà, parce que moi, ce que je te dis pas, c'est que j'ai grandi à Carpentras et en fait cette ville, malgré qu'elle est, à l'époque, elle était déjà, et c'est toujours été une mairie de gauche, mais sa population est fracturée complètement. Il y a vraiment les musulmans, la communauté musulmane d'un côté et les autres de l'autre. Et il y a vraiment cette fracture-là. Moi, je l'ai vécue, comment te dire, j'ai commencé à la percevoir réellement au lycée. Et les gens ne se mélangeaient pas. Il y avait un racisme décomplexé. Mais quand j'ai commencé à porter le foulard, franchement, là, c'était vraiment de la violence, quoi. C'était frontal, extrêmement frontal. Et franchement, je ne me souviens pas d'un jour où je suis sortie dehors, essayer de vivre ma vie d'adolescente, sans que je me sois fait au moins agresser verbalement. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'avais pas conscience. Tu vois, par exemple, j'étais très, 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 très angoissée quand j'étais ado, quand j'étais au lycée. J'ai développé pas mal de pathologies en fait qui étaient liées en fait à mon angoisse sans me rendre compte qu'en fait c'était vraiment lié à ça, tu vois, lié à tout ça. Comment je contrais ça? Je contrais pas en fait. J'étais passive. J'étais voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. J'étais même plus dans de la défense. Tu vois, on se plaignait même plus. Il m'arrivait une fois de porter plainte parce que je m'étais fait agresser par un monsieur qui était propriétaire d'un cybercafé, qui était réservé en fait aux fachos. Il avait écrit sur sa porte « Moitié prix pour les fachos ». Et quand j'entends le discours de « les musulmans se victimisent », ça me pique un peu parce que, en fait, réellement, en réalité, les musulmans ne disent rien. sont silencieux par rapport à ce qu'ils vivent parce que, ben justement, on les renvoie toujours à cette image de victime, et personne n'a envie de porter ce poids-là de la victime. C'est un rôle négatif. Personne n'a envie d'être une victime, tu vois. Mais après, arrivé à Toulouse, là j'ai évolué autrement, encore une fois. Parce que Toulouse, bah, les gens sont totalement différents. J'étais pas habituée, en fait, à pas être agressée. C'est fou, quand même, de dire ça comme ça. vois, à ce moment-là, c'était hors de question. Il m'aurait tapé. Je me suis déjà fait agresser dehors physiquement. Il serait arrivé n'importe quoi, je ne l'aurais pas enlevé. Ouais, ouais. Un monsieur qui faisait son footing, soi-disant, et puis qui passe à côté de nous et qui me donne un coup de poing dans le ventre en passant, quoi. Et même moi, tu sais, des fois, je me pose la question, je me dis, mais qu'est-ce qui me passait par l'esprit à ce moment-là pour me dire, mais stop, je l'enlève, ce foulard qui me ramène autant de problèmes. C'est pas du tout une question qui me traversait l'esprit, tu vois. C'était quelque chose qui me faisait du bien. Je me disais, si j'enlève ça, si je quitte ça, j'ai quoi ? Qui je suis, tu vois. Je sais pas trop comment t'expliquer, comment j'ai surmonté ça, mais je pense que c'est la foi, hein, pour tout te dire. Je sais ce que je fais, et c'est la foi et la conviction, et je le fais, et je campe sur ça, quoi. Hors de question qu'on me dicte quoi que ce soit.
Mes parents, quand ils ont vu que je commençais à plus m'attacher à la religion, bon, ils ont eu un peu peur, pour certains. Et vu que dans les médias, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se disaient sur les musulmans, bon, ils donnent une certaine image. Et quand des personnes chez nous n'ont pas assez de connaissances sur leur propre religion, parce que chez nous, c'est beaucoup plus traditionnel, culturel même que,
ouais,
que spirituel, ils ont tendance à se dire, oui, ils ont peut-être raison, peut-être que l'islam, en fait, quand tu pratiques, ça te rend... extrémiste, ça te rend violent, alors que ça n'a rien à voir.
Et tu vois, quand t'as des gens en face de toi qui te contrent, ben tu te mets en boule, en fait, sur tout ça. T'es juste dans une espèce de d'autodéfense où, tu vois, moi, j'explique souvent en disant les gens se radicalisent parce qu'en face d'eux, il y a aussi un radicalisme, tu vois, dans une autre pensée. Moi, je me suis pas radicalisée, hein, loin de là. Mais je me souviens que j'étais très dure, en fait, dans ma manière de réfléchir. C'est comme ça et pas autrement. Et ça m'a empêchée, en fait, de me construire. C'est tout ça, cette vie que je vivais dans le Vaucluse.
Est-ce que tu as déjà ressenti que les gens avaient cette perception de toi d'extrême
Oui, carrément.
Ah, oui.
Je me souviens même que je suis arrivé dernièrement, j'ai rencontré un ancien ami. Bon, quand on a commencé à échanger, il m'a dit, ouais, tiens, ça fait longtemps et tout, mais... J'ai même cru que tu étais parti en Syrie. Il m'a dit, ouais. Et j'en ai ri, mais je le comprenais, en fait. Parce que, du coup, il y a plein de personnes qui parlent. Surtout quand on est un peu apprécié, quand on fréquente beaucoup du monde, les gens se posent des questions et ça tombait avec une tendance de personnes, parfois, qui ne connaissaient pas vraiment la religion. Ces personnes avaient tendance à se laisser endoctriner et tout. Et bon, vu que mon entourage ne m'avait pas connu aussi de cette manière-là, c'était un peu difficile pour eux. Ils ne savaient plus comment se placer. Donc certains en parlaient, certains disaient « Ah, peut-être qu'il va aller faire d'autres guerres et tout », alors que pour ma part, c'était me concentrer sur moi-même. Oui. Mais je suis toujours resté quand même avec certains amis qui comprenaient ce qui se passait, parce qu'on arrivait à communiquer. Et comme tu dis, il y a des personnes qui acceptent parfois ton changement, parce qu'ils te suivent et bon, ça arrive. Mais il y a des personnes directement qui se braquent et qui te disent « Bon, par exemple, si tu ne veux plus aller en boîte avec nous, il n'y a pas de raison qu'on se fréquente ».
Enfin, forcément, quand t'es musulman en France, t'es comme ça ou t'es pas autrement. Dans la tête des gens, y a pas un musulman, différents musulmans, c'est les musulmans, une grande masse qui pensent tous de la même manière. On a tous les mêmes vies. Et puis voilà, toi t'es musulman, donc t'es comme ça. Et puis en fait, pas forcément de la même manière que j'imagine les catholiques ou les juifs, ben, ou n'importe quoi en fait. Hein, on est de toute façon, à partir du moment où on est une personne, on est unique. Donc quand on est croyant, on l'est aussi.
Oui, bon, pour une personne qui ne connaît pas vraiment l'islam, elle va avoir tendance à croire que je suis en train de délaisser mes traditions, mes origines, pour aller vers les origines, les traditions arabes. Et bon, après, il faut vraiment s'expliquer, quoi. J'essaie de faire comprendre. Au début, c'est juste ça. Des personnes qui arrivent quand même à m'observer, à me demander, je leur fais comprendre, mais non. Et l'islam, déjà, n'est pas pour les Arabes, c'est pour tout le monde. Tout celui qui décide d'aller vers l'islam, il va vers l'islam. Il n'y a pas une question de couleur. Ça peut être noir, blanc, peu importe. Et c'est ce que l'islam défend.
Pour un pays qui parle de laïcité, je trouve que c'est un pays qui parle beaucoup, beaucoup de religion. C'est au centre de tout, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va toujours... toujours parler de ça, en fait, c'est obligé. On va te poser la question. Et la laïcité à la française, en fait, c'est une forme de religion, en fait. Limite, tu vois, des fois, je me pose la question. Parce que la laïcité à la française, c'est quoi ? J'arrive pas bien à comprendre ce que veut dire ça. Et la laïcité à la française se rapproche dangereusement d'un laïcisme. C'est une suppression, en fait, de toute forme de religiosité sur le territoire. Quand on te dit, par exemple, dehors, pas de religion, pas de manifestation de la religion, pour moi, c'est un laïcisme. On t'impose une neutralité. Et là, c'est le discours politique aujourd'hui ressemble un peu à ça, tu vois. Des fois, tu te dis, mais quoi en fait, on n'a plus le droit d'être croyant. Parce que, ouais, on veut bien que tu sois musulman, mais ne pratique pas. Donc, ouais, c'est bizarre. La laïcité à la française ne veut plus rien dire aujourd'hui.
À la place de la religion en Côte d'Ivoire, au Mali, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de place. D'ailleurs, le Mali est réputé pour être à peu près à 90% musulman. Et la Côte d'Ivoire, une grande partie du nord est musulmane. Et en Côte d'Ivoire, un peu comme j'ai vu, même pendant les vendredis jours de grande prière, il y a des rues carrément qui sont réquisitionnées pour faire la prière, pour que tout le monde puisse ensemble prier. Et les gens arrivent à vivre comme ça, ils vivent en harmonie en fait. La Côte d'Ivoire à la base est un peu plus de conviction chrétienne,
oui.
Parce que ça vient aussi depuis la colonisation. Mais il y a eu des musulmans, ils cohabitent. Mm. Ils cohabitent tranquillement. Ils font même des chansons musulmans chrétiens. Bon, jusqu'à ces dernières années-là où c'est devenu un peu autre chose, ils cohabitaient bien, un peu comme au Mali. Hein.
Déjà, on a une idée de toi. À partir du moment où t'es maghrébine, on se fait déjà une idée de toi. On te parle souvent comme si tu savais pas parler français, en fait. Ah ouais, ça les surprend, hein, quand tu dis « j'ai fait des études », ah ouais. C'est un peu le fantasme, en fait, de la fille qui parle pas français. Ils s'attendent à ce que, quand tu commences à parler, t'aies un accent un peu comme ça... Tu vois, et ça, mais tu sais parler. Ah, mais tes frères te laissent faire ça. Ah, mais ton père te laisse faire ça. Ah, t'as le droit de sortir. Et ton mari, il voudra que tu fasses ça. Ah ouais, tu sais, des trucs comme ça, quoi. Je pense pas qu'on pose ce genre de questions à n'importe quelle femme. Tu sais, il y a toujours un peu... Toujours, on te renvoie à un truc où il y a une autorité derrière toi masculine. Le stéréotype, c'est ça, c'est soumission à l'homme, stupidité, en fait. tu comprends pas, t'es, les gens te répètent, quand tu dis ah, excusez-moi parce que t'as pas bien entendu, te répètent peut-être en, tu vois, ils articulent bien. Voilà. Si en plus tu commences à vouloir revendiquer quelque chose, même si, par exemple, bah, ta foi, et après, alors le fait que tu sois une femme qui porte le foulard, qui dans la tête de la plupart de ces gens-là est un signe de soumission, ils ne se posent pas du tout la question que c'est leur pensée à eux qui nous oppresse en réalité, tu vois. Toi, tu es là, tu fais un choix dans ta vie, tu as envie de ça, ça t'en as besoin, limite, tu vois. Moi, je peux te raconter, quand j'ai mis mon voile, c'était... Il fallait que je le mette, tu vois, c'était... Voilà, j'en ai besoin, je le fais, et je m'en suis jamais séparée, tu vois. Et t'as en face de toi des gens qui n'arrêtent pas de te dire comment tu dois penser, tu vois. Non, ben non, mais en fait, t'as tort, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Toi, t'es une femme, t'es en France, il faut que tu réfléchisses comme ça. Et puis en plus, t'es une maghrébine, donc on va te dire comment tu dois réfléchir. Puis en plus, tu portes le voile, donc manifestement, t'as besoin qu'on te donne des conseils, tu vois. Et ça, c'était insupportable. Ouais.
Quelque part, il y en a qui ne veulent pas aussi délaisser certaines traditions pour dire qu'elles vont embrasser complètement d'autres traditions, parce qu'il y a aussi ça. Souvent, on a tendance à croire qu'être musulman, c'est être arabe. Et ça, c'est un souci chez nous, parce que tout arabe n'est pas musulman, et tout musulman n'est pas arabe. Donc, il faut faire la part des choses. Et être un musulman, ça ne veut pas dire embrasser la culture arabe. On reste nous-mêmes.
Après, d'être maghrébin, ce n'est pas un cadeau. Hein. D'être musulman, ce n'est pas un cadeau en France, hein, aujourd'hui. C'est un cadeau peut-être dans sa vie propre, tu vois, et dans la manière dont on le vit. Mais, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas... Voilà. Mais être une femme et porter ces deux distinctions, ben, et je pense que c'est plus difficile. Parce que les remarques te viennent plus... C'est plus facile d'être un homme musulman, même pratiquant, hein, que d'être une femme. Ouais, c'est sûr, c'est deux fois plus d'attentes, deux fois plus de justifications, deux fois plus de... Donc, au sein de la communauté nationale, au sein de ta propre communauté, au sein de... Tu vois. Après, c'est normal, ça, même au niveau de la société, si tu retires tout ça, tu retires maghrébin, tu retires musulman et tu laisses femme-homme, c'est plus difficile d'être une femme aujourd'hui que d'être un homme, c'est indéniable.
Il faudrait apprendre à connaître... Mais sincèrement, pour moi, c'est juste ça. On nous enseigne beaucoup de choses. C'est un peu à travers les enseignements à l'école qu'on se fait une idée du monde et de l'autre. Donc, si on ignore quelque chose qu'on essaie d'apprendre, parce qu'on ne peut pas dire que tous les musulmans sont mauvais. Il y en a de partout, des bons, des mauvais. On ne peut pas dire que tous les juifs sont mauvais ou tous les bouddhistes sont mauvais. Il y en a des bons et des mauvais de partout.
Tu vois, il y a eu de la peur qui a augmenté des deux côtés. Tu vois, vraiment, j'ai ressenti ça aussi dans la communauté musulmane. Et je l'ai re-ressenti cette fois-là, peut-être même encore plus fort, je ne sais pas trop pourquoi, au moment là, de l'assassinat de Samuel Paty. Là, moi, j'étais beaucoup moins calme que je l'ai été en 2015. Beaucoup moins calme. Tu vois, là, vraiment, j'étais très, 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 très émue. Même, j'ai eu peur, tu vois, je me dis là, comme si je sentais qu'on était à un moment là où les choses allaient changer. Tu vois, en 2015, nos vies ne se sont pas modifiées, mais là, les discours, ils ont changé. Là, j'ai l'impression que, je sais pas, au niveau politique, au niveau médiatique, ça s'est complètement, je sais pas, une espèce d'explosion de l'islamophobie, tu vois. J'en suis où je n'écoute plus du tout les informations, surtout les informations, tu sais, en direct, là, qui tournent toute la journée. Aujourd'hui, t'as peur de dire que t'es musulman. Je suis musulman, mais attention, moi, je suis républicaine. J'ai entendu ça un jour à la radio, j'avais envie de pleurer.
Si on n'apprend pas et qu'on se permet, de, par exemple, en tant que musulman, de juger le chrétien, on risque de se montrer injuste, parce que nous sommes des alliés. Il faudrait juste apprendre, il faudrait enseigner du coup. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser apprendre, mais si les enseignements sont là, pour moi, si ne serait-ce qu'en France, on arrive à enseigner vraiment un peu l'islam, qu'est-ce que ça coûte? Les générations futures, elles vont de toute façon cohabiter. Mieux vaut qu'elles se connaissent, pardon. Donc on peut apprendre un peu plus sur l'islam, un peu plus sur le christianisme, un peu plus sur le judaïsme dans les écoles déjà. Comprendre que l'autre n'est pas mon ennemi, il est juste différent. Et il a une conviction et...
Les émotions des citoyens français musulmans, mais c'est pas du tout le problème des gens qui nous gouvernent, tu vois. Et ça, c'est carrément un problème. C'est une partie de la société. Et le fait qu'une partie de la société soit déconsidérée à ce point, c'est un problème pour moi, tu vois. C'est difficile quand tu te dis que c'est le pays où je suis née, c'est le pays où j'ai grandi. Et ces gens-là représentent, en fait, ce pays, mon pays, tu vois. T'es, limite, t'étais frileux à dire mon pays, tu vois, c'est chaud. T'as l'impression que t'es là, tu flottes un peu au-dessus de tout, tu t'appartiens à aucun endroit, c'est horrible, hein, en vrai. T'es frileux à dire c'est mon pays. En fait, si, c'est mon pays, je suis là, je suis née ici, je n'ai vécu à aucun endroit à part celui-ci. Et ouais. Mais bon, après, on vit, quoi, on est là. Hein.
Et comme chez nous, hein, comme en Afrique, comme au Mali, souvent on est envahi par des personnes qui viennent semer la terreur juste pour d'autres intérêts, mais c'est parce qu'on ne connaît pas. Ceux qui connaissent vraiment...
Quel genre de personnes tu parles ?
Ben, il y a des personnes qui sont arrivées au Mali à un moment donné, qui y sont peut-être encore, qui sèment la terreur, qui font des mauvaises choses, qui violent, qui assassinent. Et quand on regarde plus profondément, ce n'est pas la religion que ces gens-là cherchent à pratiquer.
Mais c'est à cause des discours comme Chalgoumi, qui, après l'assassinat de Samuel Paty, et Dieu sait, vraiment, là je ne me justifie pas, mais Dieu sait à quel point j'étais choquée et émue, il a présenté des excuses. Je présente des excuses. Pourquoi tu présentes des excuses ? Toi-même, t'es touchée dans ta chair. C'est à toi qu'on devrait présenter des excuses. Toi aussi, tu fais partie de la communauté nationale. Et tu vois, quand il a fait ça, en fait, c'est ça qui fait que les gens pensent que, tu vois... Ah, mais regardez, lui, il s'est excusé. Il s'est excusé, donc il s'est accusé, donc tout le monde doit s'excuser. Parce que tout le monde est accusé par ce discours. C'est fou, quand même. Pourquoi je présente des excuses ? Je suis pas du côté des assassins. Tu t'excuses de quoi ?
Ce qui est bien, c'est de reconnaître que si une personne décide de pratiquer une religion et que dans sa pratique, elle évite de faire de causer du tort à son prochain, pourquoi essayer de l'en empêcher ?
On n'a pas à se cacher, on n'a pas à pourquoi à dire « Ah, excusez-nous, on ne voudrait pas vous déranger, continuez votre vie de français entre vous. » Non, mais en fait, nous aussi, on est français, on est avec vous, là. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. République française, il y a écrit sur ma carte d'identité. Il faut que les musulmans prennent confiance. Il faut qu'ils aient confiance, qu'ils arrêtent de se sentir coupables.
Clairement, il y a certaines choses qui sont interdites. Donc, quand les personnes les font et qu'elles n'arrivent pas à s'expliquer, au contraire, qu'elles revendiquent des mauvais actes, on sait que voilà, ce n'est pas la religion. Donc, avant de les rejoindre, faudrait se poser les bonnes questions. Et la plupart des personnes qu'ils endoctrinent sont des personnes qui ne savent pas. Et il faudrait leur apprendre dès la base quelle est leur religion, quelle est la religion des autres, comment on peut vivre ensemble, parce qu'en islam, on est censé vivre en harmonie. Mm-hmm. C'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça doit se passer.
Mais je me dis, si on arrive à se rencontrer, à créer des événements ensemble, puis même, de toute façon, c'est ce qui se passe déjà, qu'ils le veuillent ou non, on se rencontre. On se rencontre de différentes manières, que ce soit via les réseaux sociaux ou via en fait le monde du travail. Tu vois, moi, j'en rencontre plein de gens dans mon travail. Et les gens qui travaillent avec moi savent que je suis musulmane. Et forcément, voilà, tu vois. Et puis, tu rencontres plein de gens différents. Et puis, vois que finalement, tu ne mords pas, quoi. T'es là, tu vis ta foi, tu la pratiques au mieux que tu peux. Moi, je suis pas là pour dire comment les autres doivent vivre. Et c'est ce que j'attends, j'attends des autres et j'essaie de l'appliquer à moi-même, tu vois. Comme je n'ai pas envie qu'on me dise comment vivre, je ne dirai jamais à personne comment il doit vivre, tu vois. Et je pense que voilà, éduquer, s'éduquer nous aussi, pour vivre en harmonie, il n'y a pas mieux. Faut pas se reclure.
Rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque. Chacun de ces traits ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature. Rhizome ne renvoie pas nécessairement à des traits de même nature.